Chapitre 49. Muskegon, sur les bords du lac Michigan. Si vous voulez avoir une idée de la merveilleuse industrie du bois de construction aux États-Unis, allez voir les innombrables scieries qui s'échelonnent autour de la ville de Muskegon et comptez, si vous le pouvez, les piles de bois de toutes dimensions placées comme des géants en sentinelle sur les bocs du lac Michigan. En l'année 1862, la plupart de ces scieries employaient comme ouvriers des émigrés canadiens français qui, par centaines de mille, avaient été obligés de quitter le sol natal pour aller manger le pain amer de l'exil aux États-Unis. L'archevêque de Québec, Baillargeon, avait parmi ses émigrés un proche parent qui m'adressa la lettre suivante à la fin de septembre 1862. Cher Père Chiniki, bien que je ne vous ai pas vu depuis plusieurs années, j'espère que vous vous rappellerez de moi quand je vous aurai dit que je suis le proche parent de l'archevêque Baillargeon de Québec qui vous rendit visite en 1843 alors que vous étiez curé de Kamouraska. Obligé, comme tant de mes compatriotes, de m'exiler, je tiens une grande pension de famille ici, à Muskegon, sur les bords du lac Michigan. Beaucoup de nos compatriotes y habitent avec moi. Comme vous, nous sommes nés et avons été élevés dans l'Église catholique, mais vous comprenez que notre foi a reçu un rude coup quand nous vous avons vu passer publiquement et solennellement du côté des protestants. Cependant, je ne serais pas honnête si je vous laissais sous l'impression que notre foi dans l'Église de Rome n'avait pas été ébranlée avant que vous ne l'ayez abandonnée. La conduite de nos deux derniers prêtres a été un motif plus fort que votre conversion pour nous faire comprendre que la religion du pape de Rome n'est pas la religion du Christ. L'un d'eux était à peu près toujours ivre. Plusieurs fois, j'ai eu le triste devoir de le ramasser ivre mort dans les rues pour le ramener à son domicile. Nous nous plaignîmes à l'évêque et à notre demande, il nous en donna un autre. Mais nous tombâmes de nouveau dans de mauvaises mains car ce dernier faisait un usage illicite du confessionnal pour pervertir ses pénitentes. Sa vie était un scandale public qui nous forçait à rougir. La honteuse conduite de ces prêtres est, pour la plupart d'entre nous, un sûr indice qu'ils ne croient pas à la religion qu'ils prêchent et nous vous demandons, n'est-ce pas un acte de suprême folie d'y ajouter foi nous-mêmes ? Il n'est pas besoin de vous dire que la vie scandaleuse de ces prêtres, ainsi que votre séparation retentissante de notre Église, ont tellement ébranlé la foi de beaucoup d'entre nous que nous avons complètement cessé d'assister aux offices religieux. Cependant, cet état de choses ne peut pas durer. Nous voulons une religion pour nous-mêmes et pour nos enfants. Mais comment pouvons-nous faire ce choix de la vraie religion du Christ sans le secours de quelqu'un qui soit plus sage que nous ? Ne nous repoussez donc pas quand nous vous demandons de venir à notre secours dans ces jours d'indécision et d'anxiété. Au nom de notre commun Sauveur, venez nous donner le bénéfice de votre expérience et de vos lumières dans le choix que nous devons faire du chemin qui nous conduira à la vie éternelle après les tristes jours de tribulation par lesquels il nous faut passer sur cette terre d'exil et de misère. La seule réponse que je pouvais donner à un appel aussi pressant, c'était d'aller, sans retard, au secours de ses chers compatriotes dans la détresse. Quelques jours plus tard, j'avais le privilège d'être l'hôte de mon vieil ami Baillargeon et de serrer la main à la foule de mes compatriotes dont il était entouré. La nouvelle de mon arrivée s'était répandue rapidement et j'étais à peine depuis une demi-heure dans la salle de l'hôtel qu'elle était comble. Je vis tout de suite que j'allais avoir beaucoup à faire. Chacun avait ses difficultés personnelles. Quelques-uns voulaient que je leur dise comment il était possible qu'un prêtre fît un dieu avec une petite galette. D'autres voulaient savoir comment un prêtre ivrogne, dont le nom était associé à des péchés honteux, pouvait pardonner les péchés du pénitent, dont la vie très souvent était plus morale que celle de son confesseur. Je leur dis : est-il nécessaire de vous faire un long discours pour vous prouver que le pape et ses prêtres sont des imposteurs quand ils vous assurent qu'ils font autant de dieux chaque matin qu'ils ont d'hosties sous les yeux ? La transsubstantiation est une imposture. La messe a été inventée pour faire de l'argent. Paul, parlant aux Athéniens, dit « Dieu ne peut être fait avec de l'or ni avec de l'argent. » Si le grand apôtre avait été interrogé sur ce sujet, il aurait certainement dit aussi que le Dieu Tout-Puissant ne pouvait être fait avec des petites galettes cuites par les servantes des curés. La cérémonie de la messe pour laquelle il vous faut payer de 25 sous à 1 dollar est une imposture inventée pour remplir la bourse du pape et de ses prêtres. Il plut au divin maître de bénir tellement ces quelques arguments clairs et simples qu'il devint évident que la lourde fabrique des enseignements de Rome sur ce sujet s'était écroulé dans l'esprit ouvert de ces braves gens. Il était près de 10 heures du soir. J'ajoutais, « Vous avez tous travaillé dur aujourd'hui. Vous avez besoin de repos. Revenez demain soir et avec l'aide de Dieu, je continuerai de répondre à vos questions et de vous montrer quelques-unes des erreurs de Rome. » Et je les congédiais après une courte prière.